Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, un maire membre du principal parti d'opposition du pays, le SDF, Social Democratic Front, a été enlevé mercredi dans la région du Nord-Ouest anglophone en proie à une insurrection séparatiste. Donatus Young, maire de Kumbo, une commune du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays, a été kidnappé par des combattants séparatistes, a déclaré Baudelaire Kemayou, ami du maire et responsable de l'organisme d'appui au développement des communes du Cameroun. Le SDF a confirmé l'enlèvement. Des centaines de séparatistes armés se battent contre l'armée camerounaise, procède à des enlèvements et incendies régulièrement des bâtiments publics. Plus de 175 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises ont été tués dans ce conflit en zone anglophone. Au Burundi, 3 employés de l'International Rescue Committee ont été arrêtés mercredi dans l'ouest du pays pour avoir violé l'interdiction de travailler frappant les ONG étrangères depuis le 1er octobre. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités burundaises. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, les intéressés, un Congolais et deux Burundais, n'avaient pas de dérogation spéciale et ils ont été interpellés au bureau de l'International Rescue Committee à Muyinga. Pas de réaction de l'International Rescue Committee, qui est l'une des plus importantes ONG étrangères au Burundi. Rappelons que le Conseil national de sécurité du Burundi a décidé fin septembre de suspendre pendant 3 mois les activités des ONG étrangères dans le pays jusqu'à ce qu'elles mettent en application une nouvelle loi contrôlant strictement leurs opérations dans le pays. Ces ONG peuvent reprendre le travail si elles signent et déposent 4 documents préparés par le pouvoir burundais, notamment un engagement leur imposant de placer le tiers de leur budget sur un compte ouvert à la Banque centrale du Burundi. Selon le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, les ONG qui ne se mettront pas en règle dans les 3 mois seront radiées définitivement par les autorités burundaises. République démocratique du Congo, au procès de l'opposant congolais Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement de mercenaires, la Cour de cassation a exigé en ouverture de la 2e audience mercredi à Kinshasa la présence physique du prévenu qui vit en exil depuis 2 ans à l'étranger. Le tribunal a également récusé la qualité de la défense de l'ancien gouverneur du Katanga. En réaction, Moïse Katumbi accuse le pouvoir en place et parle de farce inconstitutionnelle. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
D'après les juges de la Cour de cassation, les avocats présents en ouverture de cette 2e séance n'avaient pas qualité de représenter les prévenus Moïse Katumbi et Daryl Lewis, car il s'agit des faits passibles de 5 à 20 ans de servitude pénale. Seul le co-accusé Kibinda Mutebayanik s'est physiquement présenté devant les juges. En exil depuis 2016, Moïse Katumbi, qui n'a pas pu regagner le pays en août dernier pour déposer sa candidature à la présidentielle, a sur les réseaux sociaux remercié ses nombreux sympathisants venus à la Cour suprême pour lui témoigner leur soutien et déclarer, je cite, « Cette farce inconstitutionnelle continue. Les juges réclament ma présence, le régime ne me laisse pas rentrer. » Quand Kabila se mêle de la justice, c'est l'image de la RDC qui est ternie, fin de citation. L'Américain Daryl Lewis, également absent, a lui accusé Kinshasa d'avoir refusé de lui octroyer le visa pour pouvoir comparaître devant la justice congolaise. Pour rappel, Moïse Katumbi accusé d'avoir fait rentrer illégalement à Lubumbashi une centaine de mercenaires à l'époque où il était gouverneur au Katanga, risque entre 5 et 20 ans de servitude pénale selon la loi congolaise. Kinshasa. Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana va effectuer dans les prochains jours une tournée dans le pays pour essayer de convaincre les enseignants de renoncer à une nouvelle augmentation salariale, demande à l'origine d'une grève. Les précisions de Nani Talani.
Le Premier ministre se rendra dans les 7 capitales régionales pour convaincre les enseignants de renoncer à leur demande d'augmentation de salaire et leur offrir en contrepartie la construction de logements sociaux, selon une source gouvernementale. Monsieur Fofana annoncera à cette occasion une hausse du budget du secteur de l'éducation pour 2019, consacrée uniquement à la construction de nouvelles infrastructures scolaires dans les zones reculées et au recrutement de nouveaux enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, Maurice Sangaré, a exhorté mardi soir les enseignants et les élèves à reprendre le chemin de l'école. Une semaine après le lancement de la grève par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, la grande majorité des écoles sont paralysées à Conakry. Le syndicat accuse le gouvernement de n'avoir pas respecté l'accord qui avait mis fin en mars au précédent débrayage.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections locales bat son plein à Abidjan, la capitale économique du pays. À Abobo, une commune de plus de 2 millions d'habitants de la grande métropole ivoirienne, deux candidats en particulier retiennent l'attention dans les élections municipales. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et partisan fervent du président Alassane Ouattara, et Kone Tefour, un instituteur soutenu par Guillaume Soro. Le compte-rendu de Blanche Sanou.
À Bobo-la-Guerre, ainsi est surnommé le grand quartier populaire d'Abidjan en raison de son rôle pendant la crise de 2010-2011. Les écoles sont surpeuplées, l'insécurité y est légendaire avec le phénomène des microbes. La nuit, même les bandits ont peur de rentrer chez eux, selon une blague populaire. Derrière les grands axes, des milliers de personnes vivent sans eau ni électricité dans un océan de bidonvilles parcouru par des routes boueuses. Parmi les nombreux problèmes figure le chômage des jeunes, comme l'indique Maïmouna Samake, résidente d'Abobo.
Abobo a ses réalités, a ses toutes réalités. Moi, aujourd'hui, j'ai un diplôme d'aide-soignante, mais par la force des choses, je ne travaille pas, je ne fais rien. Je suis mère de 3 enfants. Je suis à la maison. Je fais comment pour aider mon mari? C'est difficile. Donc vraiment, nous on veut des gens qui vont venir changer notre vie.
Paradoxalement, Abobo est le théâtre d'une des plus grandes batailles pour les municipales du 13 octobre. Considérée comme le fief du pouvoir, c'est cette commune que Ahmed Bakayoko, dit Ambak, ministre de la Défense et l'homme du président Alassane Dramane Ouattara, a choisi pour battre campagne. Avec des moyens gigantesques pour ses meetings et ses énormes panneaux publicitaires, le ministre joue de sa proximité avec le président devant plusieurs milliers de militants. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et candidat à la mairie d'Abobo.
Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important.
Kone Tefour tient un autre discours devant une centaine de militants. À ses côtés, Simon Soro, le frère de Guillaume Soro. Sa campagne est moins flamboyante, mais il rappelle ses bienfaits pour la commune et a su être la solution au problème du quartier. Kone Tefour, candidat à la mairie d'Abobo.
Ma candidature est la candidature des populations d'Abobo qui aspirent à un changement, qui aspirent à la transformation sociale de leur vie. Elles ont pratiqué toutes sortes d'autorités, ministres, DG, tous ceux qui avaient l'argent parce que les populations n'avaient pas encore une conscience citoyenne. Elles pensaient que ce sont les riches qui pourraient les sortir de la précarité. Mais elles ont vite déchanté. Elles ont compris que les riches ne viendront que dans la période électorale pour leur distribuer des miettes qui ne peuvent pas transformer leur vie.
Au total, 6 candidats sont en lice, mais c'est le duel au sein de la majorité présidentielle qui attire les regards. Le contrôle de la commune la plus peuplée du pays est considéré comme stratégique pour la présidentielle de 2020.
Élection au Mozambique maintenant. Les Mozambicains ont voté mercredi pour élire leur maire. Un scrutin sur haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et son éternel rival, la Renamo. Et pour terminer, crise migratoire, l'Algérie rejette globalement et dans le détail les assertions d'un responsable des droits de l'homme de l'ONU qui l'avait accusé de maltraiter les migrants africains. Précision d'Irénée Amanoumbo.
Le ministère algérien des Affaires étrangères, dans un communiqué, rejette ces accusations. Alger s'indigne aussi contre le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, dont le bureau est à Niamey, et l'accuse d'alimenter depuis des mois une campagne de désinformation. Mardi, le rapporteur spécial de l'ONU, Philippe González Morales, a appelé le gouvernement algérien à cesser immédiatement les expulsions collectives de migrants africains vers le Niger. D'après lui, ces migrants sont raflés en pleine nuit, emmenés dans des postes de police, battus puis déportés par bus vers la frontière nigérienne. Le IEM a souvent critiqué le traitement de ces migrants africains et les opérations de leur rapatriement forcé. Selon l'organisation, l'Algérie a expulsé au cours des 4 dernières années 35 600 Nigériens, dont plus de 12 000 depuis le début de l'année. Alger et Niamey ont conclu un accord pour rapatrier les Nigériens en situation illégale, dont la majorité pratique la mendicité.
Merci de votre attention.